Yep, all ready.
Bonjour, bienvenue dans Encore heureux. Aujourd'hui, je vous lis une nouvelle de Véronique Bizot, tirée de son recueil « Les jardiniers », publié en 2008 chez Actes Sud. Les jardiniers. Quand les jardiniers seront partis, je resterai seule dans la maison, ou bien je m'installerai au fond du parc, près du bassin, aussi muet que les carpes. Les carpes, comme les jardiniers, ne sont pas venues d'elles-mêmes. Elles sont artificielles. Ce ne sont que des artifices, comme ce massif, au-delà de quoi je vois les jardiniers courbés. Ces jardiniers me dérangent. Je m'attends à ce qu'ils plantent de ces fleurs dont j'ai horreur. Ce jardin était parfait tel qu'il a toujours été, avant. Je déteste voir creuser la terre, le jardin s'agiter, toute cette agitation. Les jardiniers font impitoyablement leur travail, ils ne se laisseraient pas renvoyer, ils deviendraient violents. « Nous savons ce que nous avons à faire », me diraient-ils en brandissant leurs bêches, leurs fourches et tout leur attirail de tueurs. Un coup de binette sur la nuque, et ils n'auraient plus qu'à m'enterrer. Ce ne sont pas les endroits qui leur manqueraient, ni le terreau. Après quoi, ils ensemenceraient quelques mètres carrés de leurs fleurs bien drues. Qui s'en irait supposer que je gis là-dessous, enfoui sous cet admirable parterre? La plupart des jardins sont remplis de cadavres, c'est évident. Il fut un temps où j'arpentais le béton, où mes mains ne rencontraient que du métal, où tout ce qui entrait en contact avec mon corps sortait des usines. Il y avait toujours un bouton sur quoi appuyer, une direction à prendre. Il me semble que l'on savait toujours où aller, quoi faire de soi. De tels endroits existent toujours, ils prolifèrent même, je ne l'ignore pas, particulièrement en Amérique du Sud. Sur cette question, les Sud-Américains ne transigent pas. Mais ici, on veut des jardins. On veut plus que tout des jardins, qu'on dit d'agrément, quand les jardins ne sont rien d'autre que des pièges. On se jette sur les jardins comme dans la gueule du loup, et quand nous comprenons notre erreur, nous sommes à la merci des jardiniers. Autrefois, je voyais les immenses bateaux entrer dans les ports, les cargos se frayer un lent chemin dans le béton des rades. Là-bas non plus, personne ne se souciait d'un jardin. Les fleurs poussaient n'importe comment, à leur gré, personne ne se penchait sur elles. Il y avait les caisses à décharger, les treuils à manœuvrer. Nul n'était heureux ou malheureux. Quand les jardiniers auront achevé leur massacre, je ferai venir les bétonneurs. Avec les bétonneurs, il est possible de s'entendre. « Coulez-moi tout ça dans le béton, leur dirai-je. Je veux du béton jusqu'à la forêt, une chape bien épaisse, ne plus apercevoir la moindre fleur, plus un brin d'herbe. » Le matin, la maison est assez fraîche. Reconnaissons-lui ça. Je sens sa fraîcheur du haut de l'escalier. Les jardiniers ne sont pas encore arrivés, entassés dans leur camionnette. À combien tiennent-ils là-dedans? À l'instant de descendre l'escalier, un ample escalier avec une rampe de bronze, tout est intact encore et flottant. Du palier, je marque un temps d'arrêt. Ma main effleure la rampe. J'envisage quelque chose. Rien de précis. Puis tout se pose, tout se fige, il n'y a rien à faire qu'à descendre, ouvrir les volets et contempler le désastre. Des années loin d'ici, et un jour, une sorte de calme, soudain, un détachement, et rien n'est venu combler le vide. Alors je suis revenue, et Alice était là, qui avait forci et ne m'attendait plus. Ce sont les paysagistes qu'elle attendait. Ce jardin prend des allures de forêt vierge, a-t-elle déclaré, on n'y comprend plus rien. Il est grand temps de s'en occuper. Tout est prévu. Les paysagistes seront là d'un jour à l'autre. Les paysagistes, à ce que j'en ai vu, surgissent un beau matin en coupé décapotable avec des mous dégoûtés et des traces de dentifrice au coin des lèvres, arpentent le terrain au pas de course en faisant de grands gestes, cependant qu'il leur sort de la bouche des mots latins et des poches toutes sortes de petites étiquettes pointues qu'ils plantent ça et là comme au hasard, après quoi ils remontent dans leur véhicule, disparaissent dans un vrombissement et il n'y a plus qu'à attendre la camionnette des jardiniers. Les jardiniers sont désormais dans la place. Et Alice s'en est allée. « À mon tour de voyager, a-t-elle dit. Ne m'attends pas de si tôt, pas avant des mois ou des années. Il se peut même que je ne revienne pas. N'oublie pas de passer au nouveau cimetière. Et surtout, occupe-toi bien des jardiniers. Veille à ce qu'ils ne manquent de rien. Offre-leur à boire. Ne t'occupe de rien d'autre que de leur offrir à boire. Pour le reste, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ne va pas t'en mêler. Ne va pas les embrouiller avec tes histoires. » Je n'adresse pas la parole aux jardiniers. S'ils ont soif, tant pis pour eux. Je ne vais tout de même pas aller à leur rencontre avec un plateau de rafraîchissement alors qu'ils détruisent tout à coups de pioche. Ils n'ont qu'à boire au robinet. J'aime assez le bruit de l'eau, le mouvement des tourniquets. Avant de partir, les jardiniers éteignent naturellement les tourniquets. J'attends que leur camionnette ait passé le portail. Je sors rouvrir les robinets et je me tiens là une bonne partie de la nuit, assis sur la pierre tiède du perron, dans le chuchotement des tourniquets qui me rappelle celui des grillons. Je noie le jardin. Le lendemain, je vois les jardiniers qui pataugent et se grattent la tête, s'accusant mutuellement d'avoir laissé les tourniquets en marche. Il n'y a aucune harmonie entre eux, ce sont des brutes. Des brutes armées, fourches, bêches et pioches, comme au Moyen-Âge. Quand je téléphone à Jacques, j'apprends qu'il est veuf, retiré à la campagne, définitivement prisonnier du jardin que sa femme, Nicole, a elle aussi voulu, pour finir. Je me souviens pourtant qu'elle habitait une tour, passait ses journées dans les cafés, les métros, les ascenseurs, ne jurait que par la ville. Et puis elle a vieilli, ses paupières se sont mises à papillonner et elle a voulu un jardin. À Jacques, je raconte le jardin, Alice, les jardiniers. « Mon vieux, » me dit-il, et nous raccrochons. Quelque chose prend forme là-bas sur la gauche, une sorte de monticule au milieu de l'allée, autour de quoi les jardiniers s'affairent, tous à genoux dans la terre. En moins d'une heure, je vois s'ériger comme un rond-point, l'un de ces ronds-points qui fleurissent désormais aux abords de toute municipalité, ainsi que j'ai pu le constater à mon retour. Les jardiniers se reculent, l'air satisfait, je les entends rire. Alice appelle dans la nuit, d'une gare ou d'un aéroport. « La vie » crie-t-elle, « la vie !» Puis nous sommes coupés. Le lendemain matin, je prends ma canne et je vais jusqu'au nouveau cimetière, et de là à la mairie, où je fais, pour un total de 60 euros, l'acquisition de 4 concessions. Le prix de la concession est fixé à 25 euros, mais dès lors que vous en prenez 4, il tombe à 15 euros. Telles sont les conditions que vous fait le nouveau cimetière. Une sépulture pour 15 euros. « Je ne veux pas de voisins », écris-je sur le document qui m'a été remis. « Aucune mitoyenneté ni plantation d'aucune sorte, et je date et signe. » Quand je rentre, les jardiniers ne sont plus là, mais je trouve un homme sur le perron avec une petite valise à ses pieds. Un jeune type en chemise et cravate, aux souliers exagérément cirés, un modèle voyant, à boucles dorées sur un cuir jaune moutarde. Sans doute l'un de ses représentants, comme il en passe régulièrement. « Qu'espérez-vous donc ? » lui dis-je, « de tels souliers ?» Et je pointe ma canne sur son torse, l'obligeant à reculer. Attendez un peu que les jardiniers reviennent de leur pause déjeuner et voient ces souliers, lui dis-je, et s'en sera fait de vous. Ces gens-là sont redoutables, on ne les contrôle pas. À la minute où ils verront vos souliers, ils vous mettront en pièces. Le jeune homme sourit bravement ou niaisement, et je repose ma canne au sol. Investir une telle somme dans des souliers pareils, lui dis-je, car à n'en pas douter, vous avez tout investi dans cette paire de souliers. Est-ce que je me trompe ? Non, lui dis-je, je ne me trompe pas. Cette paire de souliers vous a ruiné, et maintenant vous venez me trouver pour me réclamer de l'argent, car vous n'avez plus un sou. Ce cuir, ces boucles, le cirage, et la façon, n'est-ce pas, toutes vos économies sont passées. Quel besoin avez-vous de tels souliers ? Lui dis-je, alors que vous avez comme moi de gros et larges pieds, et très probablement d'énormes pouces. Ce modèle que vous portez ne se prête nullement aux gros pieds qui sont les nôtres, il est même tout à fait contre-indiqué. Quand on a comme vous et moi de gros et larges pieds, on se contente de croquenots, d'une bonne paire de croquenots qui ne compriment pas et ne coûtent pas un sou. Tels que vous les voyez, mes propres croquenots ne m'ont coûté qu'une poignée d'euros, un modèle inusable. J'en ai encore pour des années à marcher avec ces croquenots, et si confortables qu'on n'a même pas l'impression d'être chaussé. C'est à peine si on pense à les retirer pour la nuit. Alors que vos pieds, à vous, sont indubitablement couverts d'ampoules, et que la journée durant vous souffrez le martyre, n'attendez que le moment de pouvoir vous déchausser, n'essayez pas de prétendre le contraire. J'ai connu autrefois un homme qui portait des souliers, en tout point semblables aux vôtres. Eh bien, figurez-vous que cet homme dont je vous parle a fini dans un lac, le malheureux. Voilà à quoi vous mènent de pareils souliers. Au lac. Le jeune homme, plaqué contre la façade de la maison, tantôt surveille les mouvements de ma canne, tantôt me fixe avec ce faible sourire hésitant. Je suis sur le point de le congédier quand il sort un mouchoir de sa poche et s'en éponge le front. « Le soleil tape aujourd'hui, » lui dis-je. « Ne restons pas là. Rentrons dans la maison avant que les jardiniers ne reviennent. Je suppose que vous n'êtes pas contre un petit verre de quelque chose. Rentrons prendre une orangeade ou ce que vous voudrez. Ce ne sont pas les boissons qui manquent. Des dizaines de bouteilles stockées là par ma sœur Alice. Toutes, pouvez-vous le croire, destinées aux jardiniers. » Mais quoique j'aie plus ou moins promis de ne pas les laisser mourir de soif, les jardiniers n'auront pas une goutte, rien. Je reviens ici, chez moi, après des années et des années d'absence, et qu'est-ce que je trouve ? Des créatures féroces qui vont et viennent du matin au soir avec leurs pelles et leurs râteaux et leurs engrais, puants, bouillis, potasses, mélasses, que sais-je encore ? Solitude et jardiniers assoiffés, voilà ce que j'ai trouvé à mon retour. Tout est méconnaissable. Pour l'instant, pas une fleur, rien que des tranchées. Mais attendez les fleurs, ce sont des fleurs par cajot qu'ils vont bientôt décharger de leur camionnette. Pas un jardin sans fleurs, hélas. Le moins de nature possible et le plus de jardin possible, voilà ce que réclament les gens par ici. Il faut, pour cesser de buter sur des jardins, aller jusqu'où je suis allée, mais là-bas, personne ne se risque. Très peu sommes-nous à nous y aventurer. Là-bas, c'est le triomphe de la nature. Non que je ne craigne pas la nature, lui dis-je. La nature, telle que je l'ai connue, est redoutable. Elle vous enserre et vous dévore. On ne peut rien contre elle. Cependant, moins redoutable que ces jardins qui ne font à la longue que vous abrutir. Je ne crois pas qu'un jardin soit d'une quelconque consolation, dis-je en entrant dans la maison. C'est une grave erreur que de se l'imaginer. Cependant, nul ne s'en avise jamais à temps. Chacun s'obstine à penser qu'un jardin, qu'il sera le remède à tous les maux, qu'à bêcher, biner et planter, on trouvera la paix mentale. Quant à bêcher, biner et planter, on ne fait que déterrer les asticots. Je me retourne et constate que le jeune homme ne m'a pas suivi à l'intérieur. Il est resté sur le seuil. Aussi lui fais-je signe d'approcher et nous entrons dans le salon. Un bref coup d'œil alentour et son regard revient sur moi. « Je ne reçois personne, lui dis-je, sachez-le. Il est tout à fait exceptionnel que je laisse entrer quelqu'un. Du reste, il ne vient plus personne, hormis les jardiniers, c'est le désert. Des gens sont venus qui, à la façon dont je les ai reçus, ont aussitôt pris leurs jambes à leur cou. Rien qui m'ennuie plus que les visites. » Dans les innombrables villes où je suis allée, là où règne une indescriptible bousculade, il est très facile d'éviter les visites. On dirait même que tout y est conçu pour ça. Mais ici, à la campagne, les gens surgissent à tout moment à l'improviste, sans même s'en excuser, disent « On ne fait que passer !» Et 3 heures après, ils sont toujours là à siroter leur orangeade. « Cependant, dis-je au jeune homme, et pour une raison que j'ignore, je ne suis tout compte fait pas mécontent de votre apparition, quelle que soit la somme que vous me demanderez pour vous sauver de la banqueroute à quoi vous a conduit l'achat mal avisé de ces souliers. Vous l'aurez. En attendant, asseyez-vous là, que j'aille chercher de quoi nous désaltérer. »
Encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Lorsque je reviens au salon, le jeune homme est debout à la fenêtre. Et à l'instant où je m'approche de lui pour lui tendre son verre, il a un léger sursaut, comme si je le tirais d'une rêverie. « Je suis, lui dis-je en versant l'orangeade, allé ce matin au nouveau cimetière, où je suis arrivé très essoufflé. C'est que le nouveau cimetière a été conçu sur un promontoire, contrairement à l'ancien cimetière qui se trouvait dans un creux, si bien qu'il a un beau jour été emporté par les eaux, croix, pierres tombales, cercueils, le torrent debout a tout charrié. On a certainement fait preuve de sagacité en construisant, si l'on peut dire, le nouveau cimetière sur ce promontoire. » Un emplacement qui m'a paru relativement exposé au vent, mais enfin il y a là la modernité qu'on peut attendre d'un nouveau cimetière. Il faut, pour l'atteindre, laisser la porcherie sur votre gauche et grimper encore quelques dizaines de mètres d'une route fraîchement goudronnée. Après quoi c'est un haut mur de béton supposé stopper net les émanations de la porcherie située en contrebas. Il n'y a encore personne dans le nouveau cimetière. Qui sera le premier ? Qui l'inaugurera ? C'est le grand suspense. Cependant, il ne reste d'ores et déjà pratiquement plus de place disponible. Les gens ont afflué de toutes parts pour se ruer sur les concessions. J'ai personnellement acheté 4 concessions pour moi seul, réservées à mon seul usage. Il est satisfaisant de savoir où l'on sera enterré le moment venu. Plus satisfaisant en tout cas que de l'ignorer. Vous-même, dis-je au jeune homme qui ne me quitte pas des yeux. « Avez-vous une idée de l'endroit où vous serez enterré ?»« Non, je parierais que vous ne vous en êtes pas préoccupé. Vous vous sentez jeune, vous vous croyez jeune, et par conséquent immortel, c'est bien compréhensible. À moi aussi il m'est arrivé de me sentir immortel, insouciant de ce qui n'était pas la vie. Je n'ai ce qui s'appelle jamais tenu en place. Je pourrais vous décrire des lieux dont vous ne soupçonnez pas l'existence, des lieux où l'on ne va qu'à pied, où l'on met parfois une journée entière pour progresser, soumis à tous les périls de 2 ou 3 mètres, et me voilà aujourd'hui, avec ma canne, essoufflée, insomniaque, livrée au bon vouloir des jardiniers. Qu'est-ce qu'ils fabriquent d'ailleurs ? Ils devraient être rentrés. D'ordinaire, ils ne s'absentent pas aussi longtemps. » Personne ne vous prévient de ça, jeune homme. J'entends de la vieillesse. Pas de signe avant-coureur, un jour c'est là et rien ne surprend davantage. Croyez-le, de quelque façon que vous ayez vécu, rien qui stupéfait comme la vieillesse qui est là d'un seul coup. Vous vous trouvez quelque part, le doigt pointé sur un point encore inexploré de la carte, et d'un seul coup, sans même que vous en ayez conscience, votre doigt glisse lentement et se détache de la carte. Votre main retombe sur vos genoux. Vous avisez un cheval qui passe, un zèbre, un phoque ou même un chien, et vous les regardez passer. Vous réclamez un verre d'eau. Arrive un gamin qui vous fait observer que votre braguette n'est pas boutonnée. Et c'est fini. Mon visiteur a bu son orangeade, dont il conserve le verre vide à la main, ne sachant manifestement où le poser. Je l'en débarrasse et vais m'asseoir dans le fauteuil à proximité de la fenêtre, de façon à guetter le retour des jardiniers. Le jeune homme, debout au milieu de la pièce, en profite pour détourner les yeux de mon visage et regarder autour de lui. « Songeriez-vous donc à me voler ?» lui dis-je. « Il y a là effectivement tout un tas de choses dont vous pourriez vous emparer, et sous mes yeux, s'il vous plaisait de le faire. » Non que je ne sois pas de force à vous en empêcher, je suis parfaitement de force à vous envoyer au tapis, sans compter qu'il me suffirait d'ouvrir cette fenêtre et de siffler pour faire accourir les jardiniers. Les jardiniers vous neutraliseraient en un rien de temps, vous embrocheraient d'un seul coup de fourche et vous flanqueraient dans l'une de leurs tranchées, ou dans ce rond-point qu'ils m'ont collé là-bas. Pas la moindre intersection que je sache à cet endroit du jardin. Pas le moindre problème de priorité, et cependant voilà soudain que surgit ce qu'il faut bien appeler un rond-point. L'allée est désormais condamnée. Plus moyen d'emprunter cette allée sans avoir à contourner ce rond-point. À vrai dire, je soupçonne l'imminente apparition d'une gloriette à cet emplacement, selon les instructions que les paysagistes n'ont pu manquer de donner aux jardiniers. Oui, ce rond-point sera probablement bientôt couronné d'une gloriette destinée, je suppose, à créer une perspective. Il a, si je me souviens bien, fortement été question de perspective dans la bouche des paysagistes. il convient, n'ont cessé de répéter les paysagistes, de ménager une perspective à ce jardin. Premier plan, arrière-plan, ont martelé les paysagistes. Transversalité, et ainsi de suite. Alice a tout approuvé. « Il n'y a dans cette pièce rien à quoi je tienne, » dis-je au jeune homme. « Aussi bien pouvez-vous tout emporter. Rien que de ce petit tableau-là, vous tireriez de quoi remplir 100 placards à souliers. Et dans cette vitrine, » dis-je en pointant ma canne, « ce fatras de bibelot, en vérité vous m'obligeriez en me débarrassant de ce fatras de bibelot. Il y a là notamment une burette dont Napoléon aurait eu l'usage quotidien. Cette burette historique, avec quoi Napoléon aurait chaque jour rincé ses oreilles, l'aurait accompagnée jusqu'en Russie et retour. Prenez-la donc, vous devriez certainement en décrocher un bon prix. » Mais le jeune homme, qui ne me quitte toujours pas des yeux, se désintéresse apparemment de la vitrine. Aussi lui indiquai-je du bout de ma canne un siège sur lequel il prend timidement place, les fesses au bord du coussin, le dos droit et toujours ce même sourire flottant, indéchiffrable. « Ah !» dis-je en détournant la tête de ce sourire, « voilà que les jardiniers sont de retour. Voyez-les sauter de leur camionnette, titubant, ivre probablement. De fait, les jardiniers ont un comportement inhabituel, qui, au lieu de reprendre leur travail, s'assoient sur l'herbe, certains même s'y allongent. Un paquet de cigarettes passe de main en main et j'entends leur gros rire, puis c'est le silence. « Ils font la sieste, » dis-je au jeune homme, qui pour la première fois hoche la tête.
Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Les jardiniers ont dû déjeuner à l'auberge aujourd'hui. À midi, l'auberge est comble. On y sert, dans une petite salle à part, ce qu'ils appellent ici le menu ouvrier. Incomparablement meilleur, sachez-le, que ce qui est affiché à la carte, et de la plus honnête consistance. Bœuf, carotte, blanquette, bourguignon, ce genre de plat. Le tout nappé d'une onctueuse sauce maison. Jamais de sauce industrielle au menu ouvrier. Tandis que si vous faites la sottise de prendre un plat à la carte, leur canard à l'orange par exemple, ou même une simple bavette aux échalotes, il ne fait aucun doute dès la première bouchée que la sauce sort tout droit d'une boîte. Naturellement, le menu ouvrier n'est pas servi dans la grande salle. Si vous vous attablez dans la grande salle, jamais on ne vous proposera le menu ouvrier. Il ne figure d'ailleurs pas sur la carte. Cependant, il n'est nullement obligatoire d'être ouvrier pour bénéficier du menu ouvrier, dis-je au jeune homme. Personne ne vous embête avec ça, vous pouvez tout aussi bien arriver en limousine et en costume trois pièces plutôt qu'en combinaison de travail. Il vous suffit, pour goûter au menu ouvrier, de vous installer dans la petite arrière-salle, nettement plus agréable que la grande salle, mieux chauffée en hiver et bien plus fraîche l'été, qui donne sur une charmante courette et dans laquelle vous êtes assuré d'être rapidement servi. Bien avant, c'est indéniable, que les clients de la grande salle où les choses s'éternisent jusqu'à plus d'heures. Il est en outre permis de fumer dans l'arrière-salle, contrairement à la salle du devant, où il est strictement interdit de fumer, à moins d'être à la table qui donne directement sur les toilettes, réputée pour ses courants d'air. On s'étonne, dans ces conditions, qu'il se trouve autant de clients qui ne songent pas même à s'installer dans l'arrière-salle, qui persistent à s'attabler spontanément dans la salle du devant, alors que leur passe constamment sous le nez le délicieux fumet des assiettes pleines à ras-bord du menu ouvrier, conduit en toute célérité à la petite salle, cependant qu'on ne leur a même pas encore apporté la corbeille à pain, ni même jeté un regard. Quand on sait qu'il y a eu des morts dans la grande salle du devant, laquelle est tout juste séparée de la route nationale par un minuscule trottoir, si bien que les véhicules en frôlant littéralement les murs et que chaque passage de camion fait trembler les vitres. C'est précisément l'un de ces camions qui, un jour de verglas, est tout à trac entré dans la grande salle à quelques 50 km à l'heure, tuant sur le coup 14 personnes occupées à fêter là une première communion. Seule la première communiante en a réchappé, qui était allée faire pipi. Le curé a été tué net par décapitation. Les autres réduits en bouillie, tous enterrés dans l'ancien cimetière d'où, moins d'un mois plus tard, le torrent de boue les a délogés. Vous imaginez bien, dis-je au jeune homme, toujours assis très droit, et quoique silencieux, semblant tout ouïe, vous imaginez bien que chaque fois que les jardiniers s'en vont déjeuner à l'auberge, je souhaite qu'un camion vienne à passer là, lequel me débarrasserait définitivement d'eux. J'irai avec plaisir à l'enterrement des jardiniers, dis-je. Mais les jardiniers s'attablent très certainement dans l'arrière-salle, où ce drame l'a prouvé, l'on ne risque absolument pas de voir surgir un camion. Jamais, depuis qu'ils sont ici, les jardiniers n'ont fait la moindre sieste, dis-je au jeune homme. Et quant à vous, lui dis-je en me levant, et bien que vous me paraissiez extraordinairement attentif, vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous êtes venu faire là, n'est-ce pas étrange ? M'approchant de la fenêtre, je note que les jardiniers se décident enfin à bouger. Les voilà qui s'étirent et se relèvent, dis-je en les observant. Maintenant qu'ils ont cuvé leur vin, ils vont poursuivre leur saccage. On pense améliorer les choses. On ne fait que les dégrader, dis-je en revenant à mon fauteuil. On s'imagine créer et l'on ne fait que détruire. Ici, avant l'arrivée des jardiniers, ce n'était que verdure, dis-je au jeune homme, rien qu'un fouillis de verdure auquel je n'ai cessé de songer toutes ces années où j'ai été absent. J'ai cru devoir courir la planète. J'avais votre âge, lui dis-je, et j'ai effectivement couru la planète. Mais c'est qu'il y avait, constamment présente à mon esprit, cette verdure dont je connaissais chaque nuance et chaque texture. Je savais par cœur la manière qu'avait tel feuillage de frémir et tel branchage de s'incliner. Où que je sois, il me suffisait de fermer les yeux pour me diriger en pensée vers ce qu'on n'aurait jamais osé appeler un jardin, simplement une étendue de verdure indomptée, enracinée. Convoquer les jardiniers, dis-je au jeune homme, a été la punition de ma sœur Alice, la punition qu'elle m'a infligée pour ma trop longue absence. À peine Alice a-t-elle appris mon retour qu'elle a fait venir les paysagistes, après quoi les jardiniers sont arrivés. Alice a veillé sur la verdure tout le temps que j'ai été partie, dis-je au jeune homme. Elle a veillé à ce que tout demeure intact, tel que je l'avais laissé, et pensait le retrouver. Et à la dernière minute, elle a ordonné ce carnage et m'a livré, sans plus rien de la douceur qu'on lui a connue, à la férocité des jardiniers ainsi qu'à la solitude. Vous devez être, dis-je au jeune homme, ce jeune sourd-muet de l'Institut, dont on m'a effectivement, ça me revient à l'instant, annoncé la venue. Le jeune homme hoche vivement la tête, comme soulagé. « Eh bien, dis-je, c'est que vous me prenez au dépourvu, j'avais tout à fait oublié votre arrivée. Encore une idée d'Alice, naturellement, comme si je n'étais pas capable de me débrouiller. J'avoue que je ne sais pas trop quoi vous donner à faire. » Le front du jeune homme se plisse légèrement, mais son regard demeure clair, suspendu dans une attente, nullement impatient. « Il y a bien, lui dis-je, après un temps de silence, tous ces livres que vous pourriez m'aider à classer, je n'ai pas eu le courage de m'y mettre. » Seul, j'en aurais pour des mois. Et quelques autres besognes de ce genre, pourquoi vous sauriez, j'imagine, m'être utile. Vous m'avez l'air d'un garçon intelligent, intelligent et attentif. Ne vous avisez toutefois pas de pactiser avec les jardiniers, lui dis-je. Que je vous vois vous approcher des jardiniers et je vous réexpédie aussitôt à l'Institut. Et allez donc chercher votre bagage. Après quoi je vous montrerai votre chambre.
Encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Et bien voilà, cette première saison d'Encore Heureux s'achève. Je vous retrouverai avec grand plaisir en septembre. En attendant, et à tout moment, et si le cœur vous en dit, vous pouvez réécouter en podcast sur notre site les portraits d'Haruki Murakami, de J.D. Salinger, Virginia Woolf, Philippe Roth, Amélie Nothomb, Barbara Cartland, Émile Cioran, Marguerite Duras, Louis-Ferdinand Céline et Françoise Sagan. Très bel été sur Radio B.